La commission athlétique présente.
Going to Las Vegas.
Washington, D.C.
Les visiteurs. Le podcast.
Los Angeles, California.
Welcome to Atlanta.
Avec Greg Langteau.
Bienvenue, la plus cordiale des bienvenues dans ce deuxième épisode du podcast Les Visiteurs présenté par billets.ca, ici Greg Langteau. Et on continue cette visite du sud de la Californie. On s'en va à Anaheim, on a visité le Honda Center qui est le domicile des Ducks d'Anaheim. Cette mythique franchise de hockey. On se rappelle tous de la naissance de cette équipe avec les Mighty Ducks d'Anaheim qui appartenaient à Disney, les fameux jerseys, la trilogie du film et tout ça. Donc, ça a été un grand plaisir d'aller visiter le Honda Center à Anaheim. Et pour ce faire, on a jasé avec une légende de l'équipe qui a remporté la Coupe Stanley avec les Ducks d'Anaheim. C'est le gardien Jean-Sébastien Giguère. D'ailleurs, pour continuer de démontrer la différence entre le hockey dans le sud de la Californie et ici à Montréal, par exemple, ben, une petite question qu'on a posée à Jean-Sébastien. Voici un extrait.
Quand tu sors de l'aréna, il fait beau soleil. Tu peux aller à l'aréna en gogoun, pas besoin de mettre ta tuque et ton manteau, puis de passer à travers un champ de nid de poule.
Je pense que ça résume pas mal cette discussion. En fait, cette question-là sur la discussion qu'on a avec Jean-Sébastien Giguère, mais également, on parle de tous ses meilleurs souvenirs, les finales de la Coupe, quand il a gagné également, les équipes là-bas, tout le reste, les anecdotes qu'il nous raconte. Je vous l'assure, vous allez adorer cet entretien avec J.S. Giguère, une légende des Ducks, et c'est très, très vrai ce que je vous dis. Également, on parle avec Benoît-Olivier Groulx, qui fait partie de l'équipe depuis plusieurs saisons déjà, avec qui on parle, bien, encore une fois, dans cette trame-là de discuter du hockey dans le sud de la Californie, là où il fait chaud, tu sors de l'aréna, il y a des palmiers. C'est vrai, je vous le dis, il y a des palmiers dans le parking. Mais également, de parler de cette rivalité avec les Kings. Vous savez qu'on a parlé des Kings directement au premier épisode. Et Benoît-Olivier Groulx avait ça à nous dire.
Ils sont à 40 minutes d'ici environ. Puis ils ont vraiment une bonne équipe. Fait que c'est toujours vraiment compétitif à chaque fois qu'on joue contre eux. Puis on les aime pas, ils nous aiment pas. Fait que ça, c'est les games que tu veux jouer le plus. C'est physique, c'est du bon hockey.
C'est assez clair, je pense. Hein? Une grosse rivalité dans le sud de la Californie, comme nous l'avait dit Luc Robitaille. Mais c'est confirmé également du côté, on peut appeler ça l'ennemi, ou maintenant, étant donné que c'est l'épisode des Ducks, de l'autre côté, et l'ennemi qui est bien sûr les Kings. Et finalement, la recrue Tristan Luneau va se joindre à nous. Lui qui avait tout juste joué quelques matchs lors de notre rencontre à Anaheim. On a eu du gros plaisir là-bas, dans ce Honda Center qu'on surnomme The Pond. Les Ducks, The Pond, l'étang, tout est dans tout. Avant qu'on plonge dans les informations concernant le Honda Center et le sport à Anaheim aussi, parce que j'avais été voir les Angels il y a quelques années, alors je pourrais vous donner quelques informations là-dessus. Aussi, on vous rappelle que les visiteurs, c'est beaucoup plus qu'un podcast audio. Vous pouvez vous rendre sur nos médias sociaux, adhérer à nos plateformes, Instagram, Facebook, YouTube également. Et ceux des visiteurs et ceux de la commission athlétique par le fait même pour voir d'autres contenus exclusifs, inédits, qu'on vous présente sur ces plateformes-là, en plus de cet épisode audio. Alors, le Honda Center, qui était à l'origine, en 1993, le Arrowhead Pond of Anaheim. Alors, le surnom vient de là également, qui a ouvert en 1993, en même temps que l'arrivée de l'équipe dans la Ligue nationale par le fait même, qui a été construit pour un coût de 123 millions. Juste donner une idée, combien vous pensez que ça vaut un building de cette envergure-là aujourd'hui? 123 millions, il n'y a pas si longtemps que ça, là. 1993, on parle d'il y a un petit peu plus d'une trentaine d'années. Ben oui, ça fait 31 ans, voilà. Si je suis encore capable de calculer comme il faut. Et les Ducks, qui étaient connus à l'époque comme étant les Mighty Ducks d'Anaheim, aujourd'hui, on sait qu'on a raccourci le nom pour les Ducks seulement, ont joué leur premier match dans la Ligue nationale et dans cette aréna le 8 octobre 1993 contre les Red Wings de Détroit. Ça a changé de nom pour être le Honda Center en 2006, donc une entente avec Honda qui a duré 15 ans à la base et qui avait une valeur de 4 millions de dollars US par année. Puis en 2021, on a renouvelé cette entente-là pour un autre 10 ans. Alors, c'est certain que cette aréna-là va s'appeler le Honda Center jusqu'en 2031. Et la ville d'Anaheim, quant à elle, a approuvé un développement en 2022 qui va redynamiser les alentours de l'aréna, qui va garder l'équipe également à Anaheim jusqu'au minimum en 2048 dans cet emplacement-là. Et ce développement va s'appeler OC Vibe, dans lequel on va continuer de développer des restaurants, des condos, et je l'ai dit, de dynamiser parce qu'il y a beaucoup de terrain disponible autour de l'aréna. Il y a même une petite rivière également qui est très, très près, là, juste de l'autre côté du stationnement. Alors, j'ai bien hâte d'y retourner dans quelques années pour voir ce développement-là, ce que ça va donner, le fameux OC Vibe. C'est la nouvelle tendance des arénas en Amérique du Nord, des stades aussi. On en parlera dans l'épisode d'Atlanta, mais c'est ce que les Braves ont fait, notamment avec le Truist Park. C'était ce qu'on voulait faire avec le nouveau stade des Expos, ici au Bassin Peel, et ce qu'on continue de développer, ce qui a été fait à Los Angeles, notamment, en bâtissant autour du Crypto.com Arena. Alors, on va continuer de faire ça à Anaheim, en créant des endroits pour du divertissement, du sport également, des parcs, des condos et tout ce que vous voulez. Donc, le OC Vibe va devenir ce qu'on appelle le cœur de Orange County, qui est l'endroit, cette banlieue sud de Los Angeles, là, qui se situe, si on veut, à mi-chemin entre LA et San Diego, plus proche de LA un peu. Ça dépend combien il y a de trafic entre les deux villes. Mais le Honda Center en soi est à peu près à 40 minutes directement de Los Angeles, super, super accessible à partir de l'autoroute et également transport en commun. Si vous voulez prendre l'autobus, ça se fait très, très, très bien. C'est ce que j'ai fait, moi, pour partir de Los Angeles et pour me rendre directement là-bas. Mais tout ça, on en parlera un petit peu plus tard à la fin de cet épisode dans lequel je vous donne mon appréciation générale, mon évaluation du Honda Center. Mais pour la petite histoire, avant que je vous donne d'autres petits détails, il y a déjà quelques restaurants qui sont construits à peu près une dizaine de minutes de marche du Honda Center. Donc, il faut simplement suivre la route et on se rend là-bas. Il y en a plusieurs, Starbucks et tout le reste, leur fameux complexe où est-ce qu'on peut trouver plusieurs établissements de restauration. Et je marche, j'arrive là-bas, puis je me trouve un restaurant. Je vois le menu en ligne, ça fait mon affaire. Et je rentre là-bas, ça s'appelle The Tilted Kilt. Et la surprise que j'ai eue, là. Tilted Kilt, juste pour vous dire, c'est à peu près une version irlandaise, bar sportif d'un Hooters. Moi, je m'en vais là pour dîner, manger une salade, puis travailler. Alors, vous irez voir des photos en ligne, si vous voulez, de ce que ça a l'air, le Tilted Kilt. Ils ont été très, très gentils avec moi. Mais j'ai eu une petite surprise quand je suis rentré là-bas. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'établissement-là. Mais finalement, j'ai pu travailler, sortir mes clips après la pratique des docks et bien sûr, avant le match. Alors, ce fameux projet OC Vibe qui sera terminé à 100% en 2028. Je ne sais pas quand est-ce que vous planifiez vous rendre en Californie, aller voir du hockey ou aller voir de la balle. Le Angel Stadium, on le voit à partir du Honda Center. C'est vraiment de l'autre côté de l'autoroute. Tu as l'autoroute qui passe entre l'aréna et le stade des Angels. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va rénover le stade des Angels, mais ça, c'est vraiment un stade qui mérite d'être rénové. Contrairement au Honda Center, qui a été, bâti assez tôt dans les années 90, ça fait quand même 31 ans, mais dans lequel on a continué de réinvestir. Surtout, on le voit là, dans les vestiaires des joueurs, dans les installations auxquelles les joueurs ont droit, mais également, on n'a pas le feeling du tout lorsqu'on est dans l'établissement que c'est un building de 31 ans. Oui, on peut peut-être s'en douter, mais quand même, au niveau du design, du confort, ça paraît pas du tout. Et d'ailleurs, on a toujours l'objectif, donc le milliardaire Henry Samueli, le président de Broadcom, qui lui espère amener une franchise de la NBA à Anaheim dans le Honda Center. Alors, on n'a pas de plan de le démolir ou quoi que ce soit, mais on va continuer de réinvestir encore et de le renouveler. Et enfin, la capacité est restée assez stable depuis l'ouverture. Donc, c'est présentement 17 174 fans. Ça, c'est à peu près 4 000 de moins qu'au Centre Bell. Donc, un endroit un petit peu plus petit, mais presque toujours plein. Les Ducks ont des fans qui sont très, très fidèles. Les gens considèrent ça comme un bel événement de s'en aller voir du hockey dans le sud de la Californie, tout comme les Kings, on en a discuté dans le premier épisode. La boutique est également très impressionnante. C'est une des plus belles boutiques que j'ai vues, tout stade et aréna confondus. On a une grande variété, super intéressant. Puis surtout, j'ai été très impressionné de voir qu'il y avait énormément d'articles qui étaient exclusifs à la boutique. D'ailleurs, ça m'a coûté cher de ramener des affaires pour ben de mes chums, notamment Not Morning Man, Max Lalonde, mais aussi encore énormément de chandails de la légende des Ducks, Jean-Sébastien Giguère. Je vous en parlais un peu plus tôt dans l'épisode. Mais voici maintenant, j'avais très hâte de vous présenter ça, cet entretien avec le gardien gagnant de la Coupe, J.S. Giguère.
Les visiteurs, le podcast.
On ne pouvait pas faire un épisode sur Anaheim sans parler à une légende des Ducks. Et je pèse mes mots parce que c'est vrai, quand on visite la boutique souvenir, quand on se promène dans l'aréna, même autour de l'aréna, Jean-Sébastien Giguère est vraiment une légende des Ducks d'Anaheim. Il est au bout du fil. Comment ça va, Jean-Sébastien?
Ça va super bien. Toi, comment ça va?
Ça va super bien. Merci beaucoup. J'ai dit, t'es une légende des Ducks. Moi, j'ai été agréablement surpris de rentrer dans la boutique. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'excite bien gros quand je m'en vais dans différents marchés. Aller voir la boutique de l'équipe, la boutique officielle, et de voir en partant, en rentrant, tu sais, je suis un gars qui... Je suis né en 86, fait que moi, la naissance des Ducks d'Anaheim, je l'ai vue. Et comme à peu près tous les kits de mon âge, j'ai trippé sur le concept, le branding, et de voir qu'il y avait deux chandails des légendes de l'équipe encore à la boutique. Il y avait Timo Selanne et pas Paul Kariya, J.S. Giguère qui était là. J'ai trouvé ça formidable. As-tu encore des belles relations avec cette organisation-là?
Oui, absolument, des très belles relations. Ça doit être parce qu'ils sont pas capables de vendre mes chandails. C'est peut-être en vente.
Non, je t'avertis, full price. Tout était full price là-bas.
Non, j'ai une très belle relation avec les Ducks. D'ailleurs, j'essaie là, de retourner à chaque année, de faire soit des promotions ou juste faire une visite. Puis d'emmener mes enfants là-bas aussi, là, parce que deux de mes enfants, mes deux plus vieux, sont nés en Californie. Donc, pour eux, c'est un peu spécial là, de retourner un petit peu à la maison. Donc, c'est vraiment un endroit là, que j'ai passé 10 ans de ma vie, où ce que je me sens, c'est comme une deuxième maison pour moi.
Bien, c'est certain. Puis, tu sais, c'est pas une très mauvaise maison non plus, non. Là, tu sais. Je veux dire, c'est drôle. Moi, j'ai fait un petit FaceTime à des amis. Tu sais, c'est anecdotique quand on est ici à Montréal puis qu'on n'a pas vu du hockey au show nécessairement. Mais littéralement, il y a des palmiers en sortant du Honda Center, là, en sortant de l'aréna. Tout est là. Donc, c'est un environnement incroyable pour aller jouer. Tous les joueurs à qui j'ai parlé semblent super heureux là-bas, très bien traités. Je pense que c'est une belle organisation aussi, mais le climat aide beaucoup, là.
Bien, absolument. Puis, tu sais, comme quand on était jeune, tu t'en souviens sûrement, là, tu sais, on entendait souvent parler « Ah, c'est pas évident de jouer au hockey dans la chaleur, puis c'est dur d'être focus, c'est pas un climat de hockey. » Et, honnêtement, c'est tout le contraire. Tu sais, ça te donne de l'énergie. Quand tu sors de l'aréna, il fait beau soleil, tu peux aller à l'aréna en gogoun, pas besoin de mettre ta tuque puis ton manteau, puis de passer à travers un champ de nid de poule pour te rendre à l'aréna. Donc pour moi, là, c'est vraiment comme un endroit incroyable pour jouer au hockey. Puis je pense que il n'y a plus personne là, aujourd'hui qui dit que les clubs qui sont dans le sud, c'est pas des places où tu gardes ta concentration. Tu regardes le succès là, que la Floride a eu l'année passée, les Ducks, les Kings, San Jose ont été bons pendant 20 ans. Écoute, c'est des endroits merveilleux à jouer, puis les gars, ils adorent ça, jouer dans des clubs comme ça.
J'ai tellement de questions à te poser, mais tu l'as dit, on a à peu près le même âge. Toi, t'as grandi là-dedans, t'es allé là-bas, t'as joué, t'as fait partie de l'établissement du hockey dans le sud de la Californie. Oui, les Kings étaient déjà installés, mais les Ducks sont venus ajouter une autre dimension, encore dans le marché de Los Angeles, mais un petit peu plus au sud également. Puis vous avez connu du succès au début des années 2000. Parle-moi, ça a été quoi d'arriver là-bas, notamment, tu sais, toi, de découvrir aussi ce marché-là en tant que joueur, mais aussi d'y connaître du succès aussi là-bas?
Bien, ça a été fantastique pour moi. Évidemment, je suis arrivé là comme plusieurs autres joueurs des fois, tu as ta chance parce que ça va moins bien dans une organisation, dans une équipe. Donc, moi, je suis arrivé là, puis les Ducks, ils étaient derniers dans la ligue. Mais ça m'a permis d'avoir une chance de jouer. Il était vraiment en reconstruction. Il était venu me chercher à Calgary dans un échange, puis de pouvoir travailler avec un entraîneur de gardien de but, François Allaire, là, dans ce temps-là, qui travaillait pour les Ducks. M'a grandement aidé, puis ça a été vraiment, là, quand je me suis fait échanger en Inde, ça a changé ma vie au complet, pas juste ma carrière, ma vie au complet, parce que, tu sais, aujourd'hui, là, je suis pas sûr qu'on serait en train de se parler si c'était arrivé, parce que je suis pas sûr que j'aurais eu la carrière que j'ai eue si ça avait pas été de cet échange-là. Donc, pour moi, ça a été merveilleux. Tu sais, j'avais beaucoup, peut-être, comment je pourrais dire, j'avais beaucoup de crainte d'aller en Inde, c'était loin de la famille, c'était loin de la maison. Je connaissais pas vraiment le marché d'Anaheim, la ville, la Californie, je connaissais pas ça. Pour moi, c'était tout un gros rêve, mais quand que tu y vas puis tu vois un peu c'est quoi, c'est quand même une place merveilleuse à vivre puis à jouer au hockey.
Ben effectivement. Puis écoute, connaître ce que j'ai dit en début d'entretien, t'es une légende des Ducks, mais t'as joué aussi avec des gars qui sont des gros noms dans l'histoire du hockey, dans l'histoire de la Ligue. Tu sais, des gars qui ont passé dans cette organisation-là, Niedermeyer, Selanne, Carrier, puis j'ai des amis dans ce coin-là qui me disaient qu'ils sont des gros fans des Ducks et de toi également. Ils me disent c'est drôle de croiser ces gars-là, soit dans les arénas parce que leurs enfants y jouent, ou de les croiser au petit café du coin qui, ben, à cette époque-là, peuvent lire leur journal tranquille. Et il n'y a personne qui est en train de leur demander des photos, même si ben, le building, moi je suis allé, il était plein, puis on me dit que ces temps-ci, ben, le building est pas mal tout le temps plein aussi.
Oui, oui, non, écoute, premièrement, les Samueli, la famille Samueli, qui est propriétaire des Ducks, c'est une famille incroyable, ils sont vraiment proches de la communauté. Et à chaque année, là, c'est des millions et des millions de dollars qu'ils redonnent à des œuvres de charité et tout ça, donc... c'est une famille qui est vraiment proche là, des gens d'affaires puis de la communauté à Orange County. Donc pour moi, puis ils s'assurent que les joueurs, ils font la même chose. Donc on est quand même proche de la communauté. Oui, tu sais, on est dans un gros marché. Puis ceux-là qui connaissent pas le marché dans la haine, tu sais, on est dans le marché de Los Angeles. Donc on doit se battre avec les Kings, on doit se battre avec les Lakers, les Clippers. Les Dodgers, les Angels de la Californie qui sont
l'autre
côté de la rue, ouais, de notre arena. Donc, on se bat contre tout ce monde-là. Puis là, en plus, depuis ce temps-là, il y a deux équipes de la NFL qui sont arrivées. Et le college le football qui est aussi en ville. Donc, il y a un paquet de choses. Là. Si tu es un amateur de sport en Californie, tu manques pas d'options. Donc, il faut trouver un moyen de se démarquer, mais je pense que ce qui fait la beauté, ce que les gens aiment, c'est que les joueurs de hockey, c'est des gars qui sont proches des gens. Ils sont proches d'approche. Tu as parlé tantôt de Timo Selanne. C'est la personne la plus formidable au monde. Il va parler avec n'importe qui. Il va prendre le temps de te jaser si tu es un partisan, un journaliste, qui que ce soit. Donc, je pense que c'est ça que les gens apprécient du hockey là-bas. Et on a, de fil en aiguille, on a bâti des partisans qui sont fiers d'être partisans des Ducks. C'est sûr que ça l'a aidé aussi de gagner la première Coupe Stanley, mais en Californie. Mais je pense qu'on est sur des bases solides là-bas. Puis faut pas oublier aussi, excuse, ma réponse est vraiment longue. Mais,
ben, je t'en prie, continue, c'est du bonbon.
Les Samueli ont bâti un paquet d'arénas là-bas pour développer le hockey mineur. Puis quand que moi je vois là, je pense qu'à la fin de ma retraite, on était rendu à 25 000 jeunes qui jouent au hockey mineur. Wow. Donc ça, c'est tout des clients potentiels éventuellement. Puis aujourd'hui, avec les Kings et les Ducks qui ont développé les deux leur programme, je suis certain que c'est beaucoup plus élevé que ça. Donc pour moi, là, le hockey en Californie, c'est un succès incroyable. Puis ça va juste continuer à grandir.
Ben, écoute, tu parles des Kings, tu les as mentionnés plusieurs fois. Parlons-en.
C'est pas parce que je les aime, là. Ah,
exact. je m'en allais là, justement. Cette rivalité-là, on a de la misère à imaginer qu'il y a une rivalité aussi forte entre deux organisations dans le sud de la Californie de cette façon-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est... Puis là, je t'explique comment je l'ai compris, puis maintenant, je veux des anecdotes, je veux tout savoir sur la rivalité entre les deux. Les Ducks sont bien sûr arrivés après les Kings dans la Ligue nationale. Donc, y a peut-être ce petit complexe d'être le petit frère des Kings, mais vous avez amené une coupe en même temps. Puis en ayant, quoi, ben ça dépend du trafic, mais 45 minutes à 2h15 entre les deux buildings aussi, y a une animosité entre les deux équipes qui est incroyable. C'est à peu près canadien-nordique et c'est Luc Robitaille qui m'a dit ça, là.
Non, t'as pas tort et on est le petit frère des Kings. Il y a toujours plein de partisans des Kings dans notre arena quand on joue les Kings. Ils sont vraiment faciles à détester. et puis on était vraiment, vraiment fiers de pouvoir dire qu'on a gagné la première Coupe Stanley. Malgré le fait qu'ils en ont gagné deux par la suite, ça nous a fait mal un peu plus. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, moi, quand on a gagné la Coupe, c'est vraiment... on était vraiment comme en anglais, on était le talk of the town. Ouais. Les gens parlaient, tout le monde parlait de nous. Les movie stars, les vedettes d'Hollywood, tout ça, ils venaient à nos matchs, ils voulaient venir voir nos matchs. Puis normalement, ils veulent aller voir les Kings, évidemment, c'est plus proche de Hollywood. Donc, c'était vraiment merveilleux pour nous. On s'est vraiment fait connaître de ce côté-là quand on a gagné pas juste quand on a gagné la première coupe, mais aussi quand on est allé en finale en 2003. On a fait toutes les shows de télévision, le Tonight Show, des choses comme ça. On était partout dans la ville. Donc, pour moi, là, c'est... c'est dur, là, d'année en année, de se faire voir là-bas dans un marché comme ça.
Ben oui.
Mais quand on a la chance de se faire voir, je pense que c'est un marché incroyable parce qu'il y a tellement d'opportunités, tellement de talk shows, tellement de stations de télévision qui veulent t'avoir, justement, puis... parler de toi. Donc, pour moi, là, c'est un marché incroyable. C'était le fun de pouvoir enlever un peu là, ça aux Kings. C'était de nous qui parlaient. Je suis pas mal sûr que les Kings, ça les a écœurés pas mal. Je pense que ça les a motivés justement pour gagner deux Coupes Stanley par la suite.
Mais c'est ça qui est bon, qui est sain dans une rivalité.
Oui, oui.
Et tu sais, tu parles des vedettes. Le soir que moi, je suis allé, tu avais deux des vedettes de la fameuse télésérie Selling Sunset qui étaient au match. On les a présentés, c'était les invités d'honneur. Et je pensais qu'on ferait la même chose aux Kings, puis finalement, il n'y en avait pas. Tu sais, Will Ferrell n'était pas au match ou je sais pas quoi. Il n'y avait pas de vedettes ou autre, mais... Les Kings sont passés par une reconstruction aussi. Là, présentement, vont bien, mais là, les Ducks sont pas dans le creux de vague, mais au début de cette reconstruction-là, avec du talent, dont du talent québécois, mais du talent à revendre, c'est incroyable. C'est probablement l'organisation avec le meilleur jeune talent dans toute la Ligue, là, si on me pose la question. Et d'ici quelques années, ben cette rivalité-là au top va revenir. Ça va être excitant.
Oui, c'est excitant. Puis, tu sais, juste une petite anecdote. C'est-à-dire que pour que Snoop Dogg me connaisse mon nom puis il m'appelle Jiggy quand il me voyait, c'est quand même assez impressionnant. Tu sais, c'est comme c'est moi qui essaie de le connaître, pas toi, mais lui, il était devenu un fan des Ducks. C'est un gars de Orange County.
Ben oui, Long Beach, ben oui.
C'est ça, ou Long Beach. Puis son garçon était devenu un fan des Ducks, justement, parce qu'on était devenu... il était un jeune garçon, on avait été en finale, on avait gagné la Coupe. Donc, c'est comme ça que tu vas chercher des jeunes partisans, puis... c'est ça, on avait fait plusieurs promotions avec Snoop Dogg. Mais tout ça pour dire, c'est que, oui, tu sais, c'est une équipe qui a plusieurs jeunes talents. Tu sais, dans mes années, là, dans les belles années où on était fort, il y avait les Kings qui étaient forts, les Sharks de San Jose étaient forts.
Ben oui.
Le voyage dans l'Ouest, en Californie, c'était vraiment pas de repos pour les autres clubs parce que non seulement on avait des équipes qui pouvaient compétitionner du côté talent contre n'importe qui, vitesse ou quoi que ce soit, on pouvait marquer des buts, mais les trois clubs étaient des clubs tough à jouer contre.
Ouais.
On pouvait se battre, on pouvait frapper. Tu savais que quand tu venais en Californie, tu sais, c'était pas le temps de venir faire des soupers de recrues ou quoi que ce soit parce que tu allais avoir trois matchs vraiment difficiles à jouer. Puis c'était vraiment la réputation que les trois clubs avaient. Fait que c'était vraiment là, c'était pas évident là, de jouer contre nous autres. Puis même avec les Sharks, qui sont quand même à 6 heures de route de Los Angeles, même avec les Sharks, on avait quand même une belle rivalité quand même.
Ben oui, et je me rappelle de cette époque-là, puis je suis certain que tous les amateurs de hockey s'en rappellent. Tu sais, pouvoir les Canadiens dire « OK, on s'en va en Californie », tu dis « Boy, je pense que ça va être 0-3 ce voyage-là,
ouais,
ça va être tough ». Et pour n'importe quelle équipe, ça l'était également. Parle-nous du Honda Center maintenant, des souvenirs que tu as, tes meilleures anecdotes. Je te dis tout de suite, ton meilleur moment là-bas, c'était quoi exactement?
Ben, premièrement, tu as vu l'Anderson 1, c'est tout fait en marbre à l'intérieur, ultra luxueux.
C'est super beau, on dirait.
Ouais, vraiment.
À quoi j'avais envie de comparer ça? C'était comme, on dirait que c'est une espèce de microcosme de hockey qui est là. On s'attendrait pas à ça, mais l'ambiance qu'il y a là, puis autour de l'aréna, ce qu'on fait, les espèces de tailgate party, les kids qui jouent avant le match à l'extérieur, c'est vraiment, on dirait, tu sais... Comment je peux te dire ça? Si on organise une espèce de gros party d'hockey remote ici dans un chalet, là, ben c'est ça, mais un gros chalet, un gros building en marbre et tout le reste. Là.
C'est ça. Mais tu sais, ça l'aide d'avoir la température, on s'entend, puis être capable de pouvoir faire des activités extérieures. Mais c'est sûr que le Honda Center, puis là, ils vont bâtir dans les deux prochaines années. Ils sont supposés de bâtir un méga centre là, de... que tous les clubs essayent de faire présentement. Là, ça va coûter des milliards avec des restaurants, des bars et tout ça. Ça va être juste en arrière de l'aréna. Donc, okay. Je pense que ça va être de toute beauté pour ça. Puis c'est littéralement à 10 minutes de Disneyland qui était le propriétaire des Ducks quand moi je suis arrivé.
Ben oui.
C'est ça, c'était les propriétaires des Ducks. Puis... juste une petite anecdote, les Ducks, ils étaient propriétaires des Ducks et des Angels. Et dans ce temps-là, là, on parle au début des années 2000, si tu combinais les deux clubs, là, les masses salariales des deux clubs, ça n'équivalait même pas à 0,1% du budget total de Disney. C'était des peanuts.
Aïe.
Mais c'est ça, ça a changé beaucoup depuis que les Disney sont plus propriétaires. Depuis que les Samueli ont acheté, tu sais, quand c'est une famille qui est propriétaire d'un club, ils sont beaucoup plus près des joueurs, ils connaissent les joueurs personnellement. Quand c'est une grosse corporation comme Disney, c'est pas toujours évident là de tu sais, tu sais pas c'est qui ton propriétaire. C'est vraiment, ils prennent ça comme un budget, ça rapporte tant, vous dépensez tant et pas plus, tu peux pas vraiment dépasser là combien d'argent le directeur général, il a vraiment les mains liées. Quand c'est une famille, c'est un petit peu plus de lousse là, fait que. C'est sûr que ça allait aider un petit peu l'équipe quand on s'est fait demander.
Bien, c'est sûr et certain. Puis, écoute, comment tu as vécu ça, peut-être les finales, la Coupe Stanley là-bas? Moi, j'ai trouvé que l'ambiance était électrique. Là, puis c'était un samedi soir à Anaheim, en milieu de saison régulière. C'était l'Avalanche qui était là. Alors, pas beaucoup de fans qui voyagent, là. J'aurais aimé ça voir un Ducks Kings ou quelque chose comme ça pour connaître cette rivalité-là. Ça arrivera dans le futur, certainement. Mais est-ce que ça fait partie de tes plus beaux souvenirs, ça, la finale de la Coupe?
Ouais, les deux finales, il n'y a aucun doute. La fois où l'aréna a été le petit comme le plus de bruit là, que j'ai vécu dans n'importe quelle aréna dans la Ligue. Ça a été la fois où Paul Kiria s'est fait frapper par Scott Stevens en finale en 2003. Puis littéralement, quand il s'est fait frapper, on n'aurait pas entendu une mouche dans l'aréna parce que tout le monde était inquiet pour Paul. Tout le monde a arrêté de parler. Tout le monde retenait son souffle. Puis là, c'est là qu'on l'a vu comme reprendre son souffle.
Ouais.
Paul, écoute, c'est vraiment là, une image... là.
Hey, je le vois sur la glace en ce moment quand t'en parles.
Non,
on se rappelle tous de ça.
C'est irréel, c'est ça. Puis il était revenu pas longtemps après, peut-être après 10-15 minutes, il était revenu, puis il avait marqué un but là, contre Martin Brodeur, un des lancers frappés à Paul Kiria qu'on ne voit plus jamais. Là, aujourd'hui, là, les gars, ils ont plus vraiment ce skill-là. Puis, écoute, t'as tellement un beau but, tellement... puis je te dis, le toit voulait sauter dans la place. C'était incroyable. Comment les gens y ont réagi à ce but-là. Puis c'est un but qui ne voulait pas dire grand-chose. On avait déjà plus ou moins gagné le match, mais c'est qu'est-ce que ça représentait. T'sais, Paul qui s'était fait vraiment frapper d'une façon un peu sournoise, puis qui revient, puis qui marque un but comme ça, là, ça avait été incroyable. Puis qu'est-ce qui est encore pire, c'est que Paul ne se souvient jamais et ne se souvient pas d'avoir marqué ce but-là. Il n'y a pas aucune mémoire de ce but-là dans sa tête.
Hey, aujourd'hui, il ne serait jamais revenu dans le match.
Non, et Scott Steven a été suspendu pendant plusieurs matchs.
C'est sûr. Mais
aussi,
d'affronter aussi Martin Brodeur, on passe ça, nous, on se rappelle de ça, puis on regarde ça à Montréal, on dit, hey, c'est le fun, deux gardiens québécois qui s'affrontent au sommet de leur art. Mais pour toi, c'était quoi d'affronter Martin Brodeur, justement, en finale de la Coupe, chez vous?
Bon, j'aurais aimé ça dans affronter un moins bon, mettons. ça aurait peut-être été plus facile un peu. C'est pas évident. T'sais, tu rencontres un gars qui... Tu sais, dans ce temps-là, en 2003, il y avait beaucoup d'expérience déjà. Il avait déjà gagné la Coupe. Il avait déjà vécu c'est quoi une finale, parce que tu sais, jouer dans les séries, c'est une chose. Jouer au hockey dans les finales, c'est une chose, on s'entend.
Ouais.
Jouer dans les séries, c'est une autre chose. Il faut que tu augmentes ton niveau d'un jeu. Il y a plus de journalistes au match, il y a plus de tu sais, les matchs veulent dire plus de choses. Donc, de série en série, c'est quelque chose. Mais la finale, c'est vraiment un autre monstre. Là, c'est vraiment comme tous les journalistes qui suivent le hockey sont là. T'sais, on parle à travers le monde. Donc, ils sont là, ils posent des questions. Donc, c'est vraiment plus difficile. Tout ce que tu dis, tu dois faire attention. Et chaque but que tu donnes ou chaque mauvais jeu que tu fais, c'est sûr que représente encore plus de... Tu sais, ça peut te faire encore plus mal. Donc, tant que tu n'as pas vécu une finale, tu ne sais pas vraiment c'est quoi une finale. Et je l'ai vraiment... J'ai réalisé après la finale, ouais, il y avait pas mal plus d'expérience que moi, Martin. Puis ça paraissait. Tu sais, je pense qu'il était plus calme dans le filet. La façon dont il répondait aux journalistes, c'était peut-être un petit peu plus facile, un peu moins stressant pour lui. Il est de nature très calme en partant, déjà, ouais. On s'entend. Mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup en regardant, j'ai appris beaucoup en jouant. Ma première fois en finale. Et ma deuxième fois en finale en 2007, là, c'était complètement différent comme scénario. C'est moi qui avais l'expérience sur Ray.
Ouais. Et c'est ça. Maintenant, avec une bague plus tard, ben tu vois que cette expérience-là, t'as quand même. Est-ce que je peux dire que t'as appris de Martin Brodeur quand tu dis après le fait, là, j'ai regardé ça froidement, puis je disais bon, c'est vrai qu'il était beaucoup plus calme et tout le reste, quand t'as eu l'occasion d'y retourner, tu t'es dit bon ben écoute, cette fois-ci, je me rappelle c'était quoi il y a 4 ans, puis comment l'autre en avant, lui, était là.
Oui, ben c'est sûr que tu apprends tout le temps, puis pas juste de Martin, c'est l'expérience au complet. Mais c'est sûr que si tu veux être le meilleur ou jouer contre les meilleurs ou gagner le plus gros trophée, faut que tu regardes les meilleurs, qu'est-ce qu'ils font. Puis dans mon domaine, c'était Martin Brodeur, c'était Patrick Roy, c'était des Roberto Luongo, c'était Dominique Hachek, des gars comme ça. Donc il fallait, t'sais, d'une certaine façon que je les regarde, mais sans nécessairement toujours les imiter. J'avais mon propre style aussi, côté technique, mais côté personnalité aussi, on est tous un peu différents. Fait que, mais il n'y a aucun doute que tu apprends en regardant des gars comme ça. C'est des gars qui sont dans le temps de la renommée, donc c'est pas pour rien.
Jean-Sébastien, écoute, j'aurais pris des anecdotes comme ça pendant 1h30. C'est tellement le fun de t'entendre parler de ta carrière, de la passion, du marché d'Anaheim également. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour nous, aux visiteurs. C'est super, super apprécié. Et la prochaine fois que je retourne à Anaheim, c'est certain que je te donne un coup de fil. Et tu me donneras peut-être quelques petites adresses intéressantes dans ce coin-là.
Ouais, c'est ça. Puis juste un petit, tu sais, comme je sais que si les gens deviennent intéressés, voir comment ça a commencé, les Dutch. ESPN, ils ont fait un reportage cette année sur, tu sais, ils font tous les dimanches, ça s'appelle E60, là, le E60.
Ouais.
Puis ils ont fait un heure justement sur les Dutch, comment ça a commencé, puis avec le film et tout ça. Puis vraiment, là, un reportage d'une heure incroyable à regarder, là, sur comment la vie allait imiter le film, vraiment. Puis que les Ducks, au début, c'était vraiment comme tout le monde riait d'eux autres. Puis finalement, on est arrivé en finale, puis on était une équipe que tout le monde prenait au sérieux. Donc, c'est quelque chose aussi. Il y en a qui veulent en savoir un petit peu plus sur les Ducks. Ça vaut la peine d'écouter ça.
Je vais mettre le lien, c'est certain, quand on va partager l'épisode aussi, qui peut venir en complément à cet épisode-là. Mais tu sais, faire un lien final avec le film. Écoute, moi, j'étais très attentif à ça. Je voyais des chandails de Jean-Sébastien Giguère. Je voyais des chandails, bien sûr, de Célané, Caria, Mason McTavish et Charlie Conway. C'était ouais. Un des chandails qui était le plus. J'imagine que c'était comme ça aussi dans tes années. Énormément de chandails de Charlie Conway.
Oui, non, absolument. Puis, c'est qu'est-ce qui a marqué la franchise. Hein? Donc, ça part de. C'est intéressant, puisque ça part d'une idée folle de faire un film. C'est quand même assez incroyable. Puis, jusqu'à où est-ce que les Ducks sont aujourd'hui, ça vaut la peine de l'écouter, honnêtement, juste pour ça, parce que c'est vraiment là, une histoire peu probable.
Merci beaucoup encore une fois, Jean-Sébastien. Je peux pas te dire à quel point c'est apprécié. C'est tellement riche d'avoir ces histoires-là puis comment toi, tu as vécu ça à Anaheim. Je te souhaite une excellente journée puis on se reparle très bientôt.
Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Salut, à bientôt.
OK, bye.
C'en es-tu, ça, des anecdotes riches et des émotions? C'est incroyable. On aurait pu se fermer les yeux, écouter Jean-Sébastien raconter ça toute la journée. J'aurais pu en demander plein d'autres également. On fera ça dans un autre contexte, assurément. Maintenant, il y a d'autres joueurs québécois qui sont également dans l'organisation. Deux de ceux-là qu'on a pu rencontrer sont Benoît-Olivier Gros et Tristan Luneau, qu'on vous présente dans quelques instants. Petite anecdote drôle. J'étais dans le vestiaire après le match et je demande à l'équipe des communications des Ducks, qui sont super, super gentils en passant. On a vraiment, vraiment été très, très bien reçus là-bas. Et je dis, « Is it possible to speak with Benoît-Olivier? » Il me regarde, « Who? Ben Oliver? Oh, Bo. You want to speak with Bo? » Et vraiment, sur la feuille de match, c'est vraiment inscrit Bo Grou, B-O Grou. Alors, ben Benoît Olivier, ça n'existe pas en AM. Il va par le nom de Bo et on lui parle tout de suite.
Les visiteurs, le podcast.
Je suis joint par Benoît-Olivier Gros, celui qu'on appelle Bo, par ici. Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Bonne game à soir.
Ouais, ça fait du bien de snapper la série de défaites à 7. Je vais juste te poser une question à propos du match. Ouais. Léo Carlson, il est-tu bon, lui?
Ça va être une des prochaines superstars de la Ligue, c'est sûr, à 100%. Tout le monde du draft parlait de Fantilli, Bedard, tout ça, puis Léo était un peu laissé de côté, mais... T'sais, tu le vois jouer en ce moment, il joue comme un vétéran, comme si ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue. Puis, sa première année, il joue pas chaque game. Fait que l'année prochaine, puis même cette année, c'est vraiment un difference maker quand il vient dans le line-up. Puis, non, c'est ça, il va être vraiment incroyable.
Ben, il me semble qu'il l'est déjà quand même pas mal. Puis vous, votre équipe, j'ai trouvé ça tellement intéressant de vous voir aller, de voir que vous êtes battu ce soir, vous perdiez 3-1, puis vous êtes revenu dans le match, vous l'avez gagné, vous avez pas semblé intimidé face à une équipe qui a gagné la Coupe Stanley il n'y a pas si longtemps que ça. Là.
Non, si on est une équipe avec vraiment beaucoup de caractère. Je pense qu'on est l'équipe avec le plus de comeback de l'histoire de la Ligue, je pense, avec 6 en 15 games ou whatever, quelque chose comme ça. Fait que maintenant, dans notre équipe, on a beaucoup de talent, on sait ça, puis... T'sais, toutes les défaites qu'on a eues dans notre streak, on était vraiment proches, à part quelques-unes. Fait que, je pense que notre confiance n'a jamais vraiment droppé. Puis, au fur et à mesure de la game, on avait plus de chance offensivement. On savait que Danette, Gibby, il allait vraiment être solide. Fait que, non, on était vraiment confiants. On a amené puck au net. On a eu des gros goals par nos top players. Puis, non, c'est ça, une grosse victoire à soir.
La foule. Elle est incroyable, la foule à Anaheim. C'est ma première fois que je voyais un match ici, puis c'était difficile de pas sourire sur la galerie de presse, de voir les gens aller toujours comme ça à Anaheim depuis que tu es ici?
Non, c'était pas toujours comme ça. Je m'en souviens, ma première année, t'sais, l'équipe, on était vraiment, vraiment so-so. Fait que t'sais, les gens, ils venaient pas vraiment au game. Puis t'sais, cette année, c'est vraiment la première année que je vois. T'sais, on a commencé vraiment fort aussi avec, je pense, à notre cinquième game, on avait 6 games. Après notre cinquième game, on avait 6 en ligne qu'on a gagné. Puis. Tu voyais les stands commencer à se remplir, tout ça. Puis là, c'est rendu quasiment à chaque home game, on a vraiment beaucoup de monde. Puis, tu sais, la crowd, elle nous aide tellement. Surtout en fin de match, ils sont vraiment bruyants, ils nous supportent. Puis, tu sais, ça, on veut gagner pour eux.
Ça veut dire quoi pour toi de faire partie de ce renouveau des Ducks? Je ne veux pas dire reconstruction, mais de ce renouveau-là. Tu fais partie du jeune talent qui est ici. Tu amènes quelque chose de significatif à cette équipe-là. On voit les McTavish, les Egris, les Carlson qui s'en viennent aussi. On sent qu'on est en train de monter et devenir une future puissance de la Ligue nationale. Pour toi, ça, tu disais à ta première année, c'était un peu plus... il y a peut-être moins de gens, moins d'ambiance. Là, quand tu vois ça, tu dois triper autant que tout le monde dans l'équipe?
Mais oui, vraiment, c'est excitant. C'est un bon temps pour faire partie des Ducks. Puis, tu sais, comme moi, je suis pas un Zegras, un McTavish ou un Carlson, mais tu sais, j'essaie d'amener ma game défensive puis un peu d'offense. C'est un peu dur ces temps-ci, mais je travaille sur ça, je fais beaucoup de vidéos. Mais, tu sais, faire partie des Ducks en ce moment, c'est vraiment le fun. On est vraiment dans le game à chaque game, que ce soit contre Vegas, que ce soit contre Montréal, Colorado à soir, on est toujours dans le game. Puis, quand tu donnes une chance de compétitionner contre les tops dans la ligue, mais c'est juste ça que tu peux demander.
Parle-nous de la filière québécoise maintenant. Il y en a plusieurs qui arrivent dans l'organisation. J'ai même parlé avec Tristan Luneau ce matin qui disait que tu l'as pris un peu sous ton aile. Tu es un jeune vétéran dans cette équipe-là maintenant. Tu l'as pris sous ton aile, tu y montres comment devenir un professionnel. Pensais-tu jouer ce rôle-là aussi jeune dans ta carrière?
Non, je pensais vraiment pas. Moi, je m'en souviens, ma première année, c'était Nick Delaurier qui s'occupait de moi.
Ah oui?
Puis en plus, lui, il a joué pour mon père quand j'étais plus jeune. Fait que, on était un peu reliés de loin. Oui. Mais quand Tristan est arrivé et a fait l'équipe, on était les deux seuls Québécois aussi. Fait que, c'est juste normal qu'on se regroupe et on soit pas mal toujours ensemble. Puis quand on a su qu'il restait, puis moi, j'ai eu ma lettre aussi pour me prendre un appartement. J'ai dit, tu peux venir n'importe quand, whatever, viens chez nous, tout ça, on va avoir du fun. Puis je pense qu'il a apprécié ça. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir. T'sais, c'est nice d'avoir un Québécois plus jeune que tu peux lui montrer comment ça marche la vie d'un professionnel. Puis honnêtement, j'ai pas une grosse job à faire. Là. Tristan est vraiment mature, il ça coche, c'est un bon joueur de hockey. Fait que même moi, j'apprends de lui des fois sur la glace. Fait que non, c'est vraiment le fun d'être avec.
Puis vous deux, est-ce que c'est, je te pose la question classique, mais de s'acclimater au hockey au sud de la Californie. Ici, on voit que les gens sont passionnés. Mm-hmm. C'est une organisation qui est quand même riche en histoire avec des grands joueurs qui ont joué. On a gagné une Coupe cette année il n'y a pas si longtemps. Les Kings en ont gagné deux il n'y a pas si longtemps. C'est vos grands rivaux. C'est une grande rivalité entre les deux avant que je finisse par poser ma question?
Oui, vraiment. Même dans la Ligue américaine, c'est une grosse rivalité. Je me souviens quand on jouait pour les Ghosts puis on jouait pour contre le Reign, c'était vraiment une grosse rivalité. Puis c'est la même chose ici. Ils sont à 40 minutes d'ici environ. Fait. Ils ont vraiment une bonne équipe, fait que c'est toujours vraiment compétitif à chaque fois qu'on joue contre eux. Puis on les aime pas, ils nous aiment pas. Fait que ça, c'est les games que tu veux jouer le plus. C'est physique, c'est du bon hockey. Fait que c'est le fun pour les fans d'avoir ça.
Puis s'acclimater dans le sud de la Californie, de sortir de l'aréna, il y a des palmiers qui sont là, il fait toujours chaud, il y a de la bonne température. C'est pas trop difficile, ça, j'imagine?
Il y a des pires choses que d'autres, mettons. C'est comme moi, ça va faire. Moi, c'est ma quatrième année en Californie. Puis, tu sais, comme moi, je suis un gars qui est pas mal assez relax après les games puis après les pratiques. Fait que, tu sais, tu arrives à l'aréna, t'es en gogoon, tu sors, t'es en gogoon, tu t'en vas à la beach, tu vas prendre une bière avec les boys sur un rooftop sur le bord de la plage. Fait que, c'est vraiment relaxant. Tu sais, je pense que tout le monde ici en profite puis utilise ça vraiment pour se recharger, changer sa, pas son mindset, mais comme un peu décompressé après les pratiques, les games, tout ça, tu sais. C'est mieux que d'être dans le moins 40, mettons, à Winnipeg. Là.
Merci beaucoup de ton temps, Beau, aujourd'hui. Une bonne fin de saison, une bonne saison complète, bonne continuation avec les Ducks, puis on se reparle, on se donne des nouvelles sous peu.
Merci, j'apprécie.
On est au Honda Center. Je suis avec Tristan Luneau, le défenseur recrue des Ducks d'Anaheim, qui va très bien en ce moment, qui a fait son premier point contre le Canadien récemment. Justement, c'était comment ce feeling-là de jouer contre le Canadien ici à la maison, à Anaheim, et de faire ton premier point contre eux?
Ouais, c'était assez incroyable. J'ai grandi, puis le Canadien, c'était une raison pour se coucher un peu plus tard, puis c'était les seuls soirs de la semaine que je pouvais rester debout puis checker le hockey. Fait que, non, c'est spécial de... Non seulement, pas juste y regarder, mais être sur la glace contre eux autres. Là, fait que, non, c'est sûr, c'était une expérience incroyable.
Puis l'accueil de la foule à date, t'as joué tes premiers matchs, on t'a rappelé, t'as commencé. D'ailleurs, ta saison va très bien, on en reparlera. Mais l'accueil de la foule à date, tes premiers sentiments quand t'es embarqué sur la glace du Honda Center, puis t'appelles ça maintenant ta nouvelle maison?
Oui, exact. Non, je pense que les fans sont incroyables ici. Il y a beaucoup d'ambiance à chaque game. Peu importe c'est quel soir de la semaine, là, c'est quand même pas mal toujours rempli. Là, fait que c'est tout le temps le fun de voir qu'il y a une bonne fanbase et que les gens d'Anaheim nous supportent. Non, c'est une expérience assez incroyable avec toutes les installations qu'on a ici au centre Honda. Là, c'est assez incroyable.
T'attendais-tu à ça, que ça soit plein comme ça tout le temps, chaque soir? Parce qu'on sait que c'est une organisation qui est en reconstruction, si on veut. On parlera aussi du talent dont tu fais partie, du jeune talent de cette organisation-là. Ben, t'attendais-tu qu'il y ait autant d'ambiance? Est-ce que ça t'a pris par surprise?
Non, honnêtement, je pense qu'ils ont tout le temps eu une bonne fanbase. Ils ont eu des équipes très compétitives dans le passé. Je pense que c'est ça qui a bâti un peu de cette fanbase-là. C'est sûr que moi, je pense honnêtement qu'on est une équipe fun à regarder et que... On compétitionne à chaque soir, puis j'espère que ça se voit des estrades, puisque c'est pour ça que les partisans viennent nous voir.
Est-ce que tu as eu des conversations avec des Québécois qui ont joué dans l'organisation avant? On sait qu'il y en a plusieurs qui sont passés par ici, qui ont eu des belles carrières également ici. T'as-tu eu quelques petits messages textes ou des conversations, quoi que ce soit?
Non, mais je dirais que c'est tout à le fun d'être avec des Québécois, puis il y en a quand même beaucoup dans l'organisation, là. même au niveau des recruteurs. On a Nathan Gaucher, Tyson Hines, Benoît Libigro, moi, Noah Warren. Il y a quand même un bon groupe là, de Québécois. Puis c'est sûr que c'est tout le temps le fun là, quand que tu reconnais deux ou trois faces pour un peu faire l'introduction dans une équipe. Là. Puis surtout d'avoir là, comme Béo Gros qui est là avec moi puis qui est un peu plus vieux. C'est pas une recrue. Fait qu'il peut me montrer un peu c'est quoi le. Qu'est-ce que ça prend pour être un professionnel. Puis j'essaie d'apprendre de ces gars-là. Là.
Ben, tant mieux, c'est le fun de voir. Il y a aussi, dont tu dis, des recruteurs, mais il y a Martin Madden Jr. également qui fait partie de l'organisation. C'est le fun de voir qu'il y a des belles délégations de Québécois comme ça en Californie qui nous représentent si bien. Tu parlais de Benoît-Olivier Groulx, tu parlais aussi de Nathan Gaucher, les autres jeunes de l'organisation, mais vous êtes reconnus probablement comme une équipe qui a le plus de jeunes talents dans la Ligue nationale. Mason McTavish, Trevor Zegras, tu as aussi, bien sûr, Zellweger et... excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire à propos de... L'autre Canadien, excuse-moi, défense, Jamie Drysdale, qui est là également. C'est excitant pour toi de faire partie du futur de cette organisation-là puis de ramener des Coupes Stanley ici en AM.
Mais oui, c'est sûr que c'est ça l'objectif. Puis moi, je vois ça vraiment comme une opportunité parce qu'on se pousse tous l'un l'autre là, sur la glace. On veut tous s'améliorer puis avoir un poste constant dans l'équipe. Fait, c'est juste une énorme compétition. Puis honnêtement, je vois ça comme une opportunité. Là, ça te pousse à amener ton meilleur à chaque pratique, à chaque game. Puis c'est le fun aussi d'être des jeunes là, tout ensemble. Puis un peu plus proche en termes d'âge. Fait que, on s'entend bien. Puis c'est le fun d'être ensemble en dehors de la glace comme ça à la glace. Là.
T'as compté ton premier but récemment aussi, ici même à Anaheim. La réaction de la foule, tout ça, c'était-tu comme un rêve? As-tu commencé à réaliser que t'as compté ton premier but dans la Ligue nationale? Es-tu content de la réaction et tout?
Ben oui, c'est sûr. Je pense que c'est un milestone en tant que tel. Là, scorer son premier point et son premier but là, dans la NHL. Fait que non, je suis très content que ça s'est passé. Puis surtout à la maison là, avec les fans. Puis c'est tout le temps plus le fun quand que la foule te supportent, puis non, okay, ils sont déçus que tu aies scoré, mais non, c'est assez incroyable de scorer ça à la maison.
Dernière question avant de te laisser aller pour le match de ce soir. Tu vas affronter, j'imagine, c'est un gars que tu as regardé depuis que tu as commencé à jouer au hockey, Cale Makar. Tu l'affrontes ce soir ici à la maison. C'est-tu quelque chose auquel tu penses ou que tu trouves intimidant, excitant? C'est un beau défi pour toi de l'affronter?
Ben oui, c'est sûr. Tous ces gars-là, c'est des gars que je regardais quand j'étais jeune. Puis on dirait à chaque game, c'est comme tu joues contre un nouveau de tes idoles. Fait que, alors ça commence à être pas une routine, mais comme à chaque game, c'est comme ça rajoute un petit coup spécial à la game, puis un petit peu plus d'excitation. Puis c'est ça qui est le fun de jouer à chaque game, à chaque fois que t'es sur la glace. Mais t'as des gars que t'as déjà regardé à TV. Fait que, non, c'est une motivation de plus, c'est sûr.
Excellent. Merci beaucoup, Tristan.
Merci.
Les visiteurs, le podcast.
Alors, j'espère que vous avez apprécié ces entretiens avec Beau et avec Tristan également. Quel gars généreux. T'sais, après le match, Beau n'était pas un des joueurs disponibles. Habituellement, vous le savez, on rend certains joueurs disponibles dans le vestiaire. On s'en va chercher des clips. Et lorsque j'ai dit à l'équipe, encore une fois, de PR, que ça, je vous ai raconté, lorsqu'ils ont compris son nom, mais ils sont allés le voir, lui ont demandé, et il est arrivé en courant. Il m'a dit « Hey, on m'a dit qu'il y avait un gars de Montréal qui voulait me parler en français. » Et j'ai arrêté tout ce que je faisais. Je suis venu ici te parler. Alors, quel chic type. Même chose pour Tristan Luneau, qui a été très, très, très gentil. Allons-y avec l'évaluation donc des lieux du Honda Center. Vous le savez, on a cinq différents critères. Design, accessibilité, ambiance, prix et l'offre alimentaire, la bouffe, qui vont nous donner une note générale. Le design. Je vais y aller avec un 4 sur 5 pour le design. À l'intérieur, les planchers sont tous comme en marbre. C'est très, très large aussi. On y circule super bien. On respire dans l'aréna. Donc, on n'a pas l'impression de toujours être pris dans un pain, de la misère à aller à la toilette, de la misère à aller chercher de la bouffe. C'est vraiment pas comme ça. C'est une ambiance qui est très, très chaleureuse. Alors, j'aime beaucoup l'intérieur de l'aréna, l'extérieur aussi. T'sais, on ne peut pas donner une merveille de design si on veut, parce que c'est un building qui a quand même été bâti en 92-93. Donc, j'y vais avec un 4 sur 5. C'est un endroit qu'il faut dire, comme je l'ai dit, c'est pas une merveille d'ingénierie, le Honda Center, mais c'est tout de même très, très agréable d'être à l'intérieur et d'être présent pour regarder un événement. L'accessibilité, maintenant, je me dois d'y aller avec une note un peu plus basse de 3,5 sur 5. Super facile, je vous l'ai dit. On sort de l'autoroute. D'un côté, il y a le Angel Stadium. De l'autre côté, le Honda Center. Alors, ça se fait super bien. En autobus également, il y a une grosse station d'autobus qui est juste devant à un coin de rue, 3 minutes de marche. Donc ça se fait super bien. Et on peut faire le trajet entre Los Angeles et Anaheim pour à peu près 15 $. Et il y a beaucoup de départs également qui se font. Si vous voulez le faire en Uber également, ça se fait, mais c'est assez dispendieux. Donc, pas de transport en commun à proprement dit, comme un métro qui amène jusqu'à l'aréna directement. Alors, vos seules options sont la voiture ou l'autobus. Donc, pas vraiment marcher ou quoi que ce soit. Donc, ça coupe un petit peu. Alors, 3,5 sur 5 au niveau de l'accessibilité. Maintenant, pour l'ambiance, je vais aller avec un bon 4,5 sur 5. C'est, je l'ai dit, un aréna qui est plus petit que le Centre Bell, par exemple, mais qui est tellement fort de la façon qu'il est bâti. C'est très, très vertical. On voit très bien partout où est-ce qu'on est assis. Et le son résonne bien. La foule est très, très forte. Je vous mets un petit clip sur les médias sociaux que j'ai pu enregistrer du tir de barrage gagnant qui a été fait par Leo Carlson pour remporter le match. Donc, et la foule, je pensais que le toit allait exploser. On a une super belle animation. Les gens rient. On a du plaisir. On en a parlé des chandails des fameux Mighty Ducks du film qui fait que c'est une ambiance qui n'est pas trop sérieuse. On a du plaisir. Il y a des stars également qui vont au même titre que d'aller voir les Kings. Cette fois-ci, il y avait Mary et Heather du show Selling Sunset sur Netflix de cette émission qui était invitée là-bas. Et l'accueil était chaleureux. Ils ont embarqué là-dedans. Alors, une ambiance de 4,5 sur 5 là-bas au Honda Center. Maintenant, l'offre alimentaire, 4 sur 5 là aussi. On fait des beaux efforts, il y a une belle variété également. Il y a comme une espèce de gros endroit là, qui est un comptoir ouvert là, où est-ce qu'on peut choisir exactement ce qu'on veut, une espèce de marché. Beaucoup de bières locales, de microbrasseries locales qui est très intéressant et le choix... De la bouffe aussi, donc beaucoup de cuisine du sud, donc barbecue. On peut avoir des fish and chips, une offre qui est quand même assez variée, intéressante, des options santé avec des salades, des options véganes également. Mais est-ce que au niveau du rendu, du goût, ça m'a jeté à terre complètement? Puis non, ça c'est sûr que c'est non. Mais c'était quand même très, très bien. Alors, je vais avec un 4 sur 5 pour l'effort, pour les bières locales et pour la diversité également qu'on peut trouver au Honda Center. Finalement, les prix. 2,5 sur 5. C'est le building le plus cher dans lequel j'ai vu de la bouffe, la marchandise également, les objets qu'on peut acheter, les chandails, les jerseys. Mon jersey de Mason McTavish m'a tellement coûté cher. Très heureux de l'avoir, cela étant dit, parce qu'il est magnifique. Mais je vous donne une idée. Un Burger Southwest, 28 $US. Les Fish and Chip, 24 $. Une poutine d'Onion Rings. Rondelle d'oignon poutine. Peut-être pas mal sûr que je mange ça. Puis je m'endors, moi, durant le match, 26 $. Et le prix des billets, par contre, pour aller voir le match, n'est pas si dispendieux. Juste que rendu sur place, les bières sont en haut de 20 $ US. C'est très, très, très dispendieux. Puis c'est un petit peu le vibe dans le sud de la Californie. Des amis qui sont allés voir les Padres de San Diego, par exemple, et qui ont vu que c'était à peu près la même affaire, là. Donc, une bière et un burger, ça coûte autour de 50 $ US là-bas aussi au Petco Park de San Diego. Donc, c'est la norme là-bas, c'est le coût de la vie là-bas, mais pour nous, bien, c'est assez dispendieux. Ce qui nous amène donc à une note finale de 74 sur 100 pour le Honda Center. 74%. En comparaison, le Crypto.com était à 83,2, si je ne m'abuse. On est là maintenant pour le Honda Center. J'espère que vous avez apprécié ce reportage, que vous avez apprécié nos invités également, Jean-Sébastien, Benoît-Olivier et Tristan. J'espère aussi que vous avez vu finalement, ces différences, qu'on a réussi à démontrer les différences entre le hockey en Californie, qu'on vous a bien donné ce portrait. Surtout, si vous décidez d'aller là-bas, bon voyage. N'hésitez pas à nous écrire, entrer en contact avec nous, demander des recommandations. Surtout, ayez du plaisir. Merci à vous autres d'avoir écouté cet épisode. Merci également à toute la gang de billets.ca de nous aider à propulser ce podcast. On vous rappelle, inscrivez-vous sur nos plateformes de médias sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, de la Commission athlétique, des visiteurs. Et nous, on se reparle très, très bientôt pour une nouvelle destination. À la prochaine. Salut!